l'heure de mes retrouvailles avec Camille Manière pour le journal. Bonjour.
Bonjour. 4 mois de combat acharné à Raqqa, en Syrie, et l'ex-capitale autoproclamée de Daesh est tombée il y a quelques minutes aux mains des combattants syriens et kurdes. Ce sera le principal titre de notre journal développé par Nabila Hamel dans un instant. Nous serons également en Afghanistan dans ce journal, l'Afghanistan où le sud frontalier du Pakistan a été le théâtre ce matin d'une attaque terroriste contre un camp de la police. Les talibans ont déjà revendiqué l'assaut. Nous serons en ligne avec Sonia Ghezali à Kaboul. Une bombe dissimulée sous sa voiture de location, l'assassinat d'une figure de la presse indépendante à Malte. Hier, la blogueuse Daphne Caruana Galizia, tuée parce qu'elle révélait sur son site la corruption des élites maltaises. Marie-Pierre Vérot nous dressera son portrait. En France, le marathon des débats parlementaires sur le projet de budget 2018 s'ouvre cet après-midi dans l'hémicycle. Plus de 1200 amendements, des critiques qui se concentrent contre la suppression de l'ISF. Mais pas seulement, nous dira Stéphane Robert. Question posée également à notre invité, le député La République En Marche, Hervé Berville. Et pendant que l'Assemblée se penche sur ce budget accusé de faire trop de cadeaux aux riches, Emmanuel Macron lance à l'Élysée sa grande concertation sur la lutte contre la pauvreté. Une bonne initiative, mais bien peu d'annonces pour le moment en faveur des plus démunis. Commentaire de Christophe Giroudet d'ATD Carmonde. Nous évoquerons également le rapprochement entre Airbus et Bombardier dans le secteur aéronautique pour contrer la politique protectionniste de Donald Trump. Et puis ce signal exceptionnel capté des tréfonds de l'univers, des ondes gravitationnelles et de la lumière issue d'une collision entre deux étoiles. C'est capital pour la recherche mondiale et c'est Rosalie Lafarge qui nous dira pourquoi.
Comment faire entendre la parole citoyenne dans l'espace public? Ce sera le sujet de la deuxième partie de la Grande Table. Deux regards sur la démocratie aujourd'hui. Celui de la philosophe Sandra Logi qui publie Anti-démocratie et celui de la cinéaste Mariana Otero qui a filmé Lui debout. Son film Assemblée sort en salle dès demain.
Et ce sera à 12h55. La principale information de la mi-journée, c'est donc la chute qui semble se confirmer de la ville de Raqqa en Syrie. Le drapeau noir du groupe État islamique ne flotterait plus sur cette ville dont Daesh avait fait la capitale de son califat et l'un de ses tout derniers fiefs. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
Après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est désormais le commandement des forces syriennes et alliées contre le groupe État islamique qui annonce avoir donc repris le contrôle total de Raqqa.
Oui, et la chute de Raqqa était attendue puisqu'il ne restait que quelques dizaines de combattants du groupe État islamique dans un des derniers retranchements de ce qui était leur capitale en Syrie. Les forces de la coalition les ont donc d'abord chassés de l'hôpital de la ville. 22 djihadistes étrangers auraient été tués lors de cette première opération. C'est du moins ce que rapportent les forces démocratiques syriennes, une coalition arabo-kurde soutenue par les États-Unis qui combat les membres de l'EI. Puis, ce matin, après l'hôpital, c'est le stade municipal qui a été investi par ces mêmes FDS, ce que confirme l'Organisation syrienne des droits de l'homme, l'OSDH basée à Londres, a ensuite fait état de la chute de Raqqa en précisant que les forces démocratiques syriennes, dont le porte-parole prévoyait la reprise du contrôle sur ce dernier réduit ce mardi ou au plus tard demain, ont donc pénétré dans l'enceinte de ce stade après avoir ratissé la plupart du secteur alentour. L'OSDH précise que la plupart des djihadistes se sont rendus. Nous attendons donc une annonce officielle de cette chute de Raqqa. La chute de Raqqa va constituer un nouveau revers de taille d'ailleurs pour l'organisation État islamique qui a perdu beaucoup de terrain en Syrie et en Irak après des multiples offensives pour le déloger des régions conquises depuis 2014. Raqqa était d'ailleurs devenue le symbole des pires atrocités commises par l'organisation djihadiste qui avait même planifié de là plusieurs de ces attentats qui ont touché l'Europe et la France.
Nabila Hamel, merci pour toutes ces précisions. La bataille de Raqqa aura donc duré 4 mois. Nous y reviendrons bien sûr dans notre journal de 18h. Dans le sud de l'Afghanistan, les forces armées du pays viennent à peine de reprendre le contrôle de la base de la police dans cette localité de Gardez à la frontière avec le Pakistan. Le dernier bilan officiel fait état de plus de 32 morts et 160 blessés. L'assaut a été immédiatement revendiqué par les talibans afghans. Sonia Ghezali est la correspondante de RFI à Kaboul pour France Culture.
L'attaque a commencé à 8h30 heure locale ce matin. Deux véhicules piégés explosent à l'entrée du camp de la police de Gardez. Des hommes armés, munis de vestes explosives et d'armes légères, pénètrent juste après dans les locaux et ouvrent le feu. Les forces spéciales et des renforts de police encerclent alors le camp et ripostent au tir des assaillants durant plusieurs heures. L'attaque cause de nombreuses victimes parmi les policiers, mais aussi parmi les civils, dont des étudiants de l'université qui se trouvent à quelques pas du complexe. Des témoins sur place décrivent deux immenses colonnes de fumée s'élevant dans le ciel au-dessus des bâtiments calcinés et criblés de balles, alors que des dizaines de blessés sont évacués dans les ambulances, transportés dans les hôpitaux les plus proches. La Paktia, province dont Gardez est la capitale, est un fief des talibans qui ont rapidement revendiqué l'attaque. Cette province est frontalière du Pakistan et des zones tribales qui s'y trouvent, des zones considérées comme un repère de groupes terroristes. Akhani, Al-Qaïda, talibans et autres s'y réfugient pour échapper aux forces de sécurité afghanes. Ces dernières accusent régulièrement leurs homologues pakistanais de ne pas intervenir et de les laisser proliférer dans la région.
Et justement, de l'autre côté de la frontière, dans la région pakistanaise de Kouram, deux drones américains ont frappé hier soir un site où se réunissaient des membres du réseau extrémiste Akhani, dont parlait Sonia Ghezali, un groupe allié aux talibans. Des frappes ciblées qui ont fait au moins 26 morts. Et pendant ce temps, la France continue d'expulser des migrants en situation irrégulière vers l'Afghanistan, situation dénoncée par le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui demande une suspension immédiate de ces expulsions, en particulier quand elles concernent des personnes malades qui ne pourront pas recevoir de traitement médical suffisant dans leur pays. Jacques Toubon s'inquiète aussi du fait que l'Union européenne encourage ses États membres à accélérer le renvoi des Afghans déboutés de leur demande d'asile. Une journaliste d'investigation tuée par une bombe cachée dans sa voiture, c'est arrivé hier au cœur d'un État membre de l'Union européenne, Malte, et la célèbre blogueuse Daphne Caruana Galizia, assassinée donc pour avoir multiplié les révélations sur la corruption des dirigeants de son île. Bonjour Marie-Pierre Véron.
Bonjour.
Vous dressez pour nous le portrait de cette femme qui avait épinglé de nombreux politiques à son tableau de chasse.
Et oui, combattre l'opacité et la corruption à Malte, dénoncer inlassablement, quitte à accumuler les plaintes en diffamation, c'était son quotidien. Dans la petite île, Daphne Caruana Galizia était connue comme le loup blanc, redouté aussi. Sa plume acérée, ses accusations de corruption contre la classe politique, surtout les travaillistes au pouvoir, son blog dont l'audience outrepassait régulièrement celle des journaux traditionnels, avec des pointes quotidiennes de 4 à 500 000 visites sur une île qui compte 420 000 habitants. Plusieurs milliers de Maltais sont spontanément descendus dans les rues pour lui rendre hommage hier soir. Un nouveau rassemblement est prévu à la mi-journée devant le tribunal de La Valette. C'est une femme Wikileaks, elle, toute seule, écrivait le site Politico dans son classement des personnes les plus susceptibles de changer le monde en 2017. Daphne Caruana Galizia avait d'ailleurs provoqué des législatives anticipées cet été après avoir accusé, dans le cadre des Panama Papers, la femme du Premier ministre maltais d'avoir ouvert un compte au Panama pour y abriter des pots de vin versés par l'Azerbaïdjan en échange d'un accès au marché bancaire de l'île. Parlant d'une journée noire pour notre démocratie et la liberté d'expression, le Premier ministre, l'une de ses cibles préférées, a dénoncé un acte barbare. Il a promis qu'il n'aurait de cesse de traduire ses auteurs en justice. Les pistes sont nombreuses, autant que ses ennemis, à droite comme à gauche. Daphne Caruana Galizia s'était en effet récemment attaquée aussi au nouveau chef de l'opposition conservatrice qu'elle accusait d'avoir un compte à Jersey alimenté par l'argent de la prostitution à Londres. La journaliste avait fait état de menaces récemment. Sa famille, qui se dit en guerre contre l'État et le crime organisé, a en tout cas obtenu que la magistrate en charge de l'enquête sur son assassinat se récuse. Elle avait en effet, elle aussi, été plusieurs fois la cible des critiques de Daphne Caruana Galizia.
Marie-Pierre Véro, merci. J'ajoute que l'Union européenne vient tout juste et tardivement de communiquer sur cet assassinat. Bruxelles se dit horrifiée par les circonstances criminelles de la mort de la blogueuse.
Midi 40 sur France Culture, la suite de votre journal, Camille Magnard. Dans l'actualité française, c'est le projet de loi de finances qui arrive en débat à l'Assemblée. Le premier budget du quinquennat Macron, scruté donc de très très près par tous ceux qui voient en lui le président des riches.
Plus de 1300 amendements ont été déposés. Les débats s'annoncent donc particulièrement âpres sur la nature même de la politique économique et fiscale des années à venir. On en parle tout de suite avec Stéphane Robert. Bonjour à vous.
Bonjour Camille.
Dites-nous, sur quoi vont se cristalliser les attaques que l'on attend très nombreuses dans l'opposition?
Les députés de droite devraient monter au créneau sur l'augmentation de la CSG d'1,7 point dès le 1er janvier. C'est le principal angle d'attaque des députés des Républicains, car cette mesure, disent-ils, va pénaliser les retraités, pas les plus modestes, mais ceux qui perçoivent une pension de plus de 1400 euros par mois. Sur le reste, la droite est assez mal à l'aise et devrait plutôt rester en retrait, car de nombreuses mesures de ce projet de loi de finances faisait partie de ce qu'elle préconisait depuis des années, notamment la mise en place de la taxe unique de 30% sur les revenus du capital, ce qu'on appelle la flat tax, pour reprendre cet anglicisme à travers lequel on la caractérise le plus souvent. Jusqu'ici, les revenus du capital était taxé à hauteur de 45%. Cette taxe est ramenée à 30%, ce qui fait bondir l'opposition de gauche, notamment les députés ex-socialistes de la Nouvelle Gauche, qui ont calculé que, hors prélèvements sociaux, les revenus du capital seront dès lors moins taxés que ceux qui se trouvent dans la première tranche, que les personnes qui se trouvent dans la première tranche d'imposition sur le revenu, d'où cette qualification de budget pour les riches qui va ressurgir immanquablement. Et puis on devrait voir encore une fois monter au créneau les députés communistes et ceux de la France insoumise contre cette mesure emblématique, symbolique, qu'est la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune.
Et justement Stéphane, sur ce sujet en particulier de la suppression de l'ISF, le MoDem, qui est, on le rappelle, allié à La République En Marche, a une proposition.
Oui, les députés du MoDem ont décidé de défendre en séance un amendement qu'ils n'avaient pas proposé la semaine dernière en commission, un amendement qui vise à ne plus véritablement supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, mais à exonérer de cet impôt l'argent qui est investi dans l'économie. Pour ça, le MoDem propose d'élargir le champ d'application de ce qu'on appelle le dispositif Dutreil, dispositif mis en place en 2003 et qui vise à exonérer aux trois quarts de l'ISF l'argent investi en titres d'entreprise ou en actions. Il s'agit pour eux d'appliquer stricto sensu l'argument développé par Emmanuel Macron pour justifier cette réforme. Le président a dit vouloir rediriger l'argent des Français vers l'investissement, vers ce qui fait marcher l'économie, et donc de taxer plus lourdement le capital non productif. Et c'est précisément ce que propose le MoDem avec cet amendement. La difficulté, s'il était adopté, serait peut-être que, symboliquement, la majorité et le gouvernement donneraient l'impression de reculer.
Stéphane Robert, merci à vous. On va en parler justement en direct avec nous, avec notre invité Hervé Berville. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne depuis l'hôtel Matignon. Vous êtes député La République En Marche des Côtes d'Armor. Vous avez 27 ans et vous êtes l'un des porte-parole du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors cet amendement du MoDem dont parlait à l'instant Stéphane Robert, est-ce qu'il est de nature à dégager un consensus, à votre avis, sur la suppression de l'ISF ?
Alors, le groupe MoDem est dans son rôle et dans son droit de déposer des amendements. Nous, en groupe et La République En Marche, on a décidé de mettre en œuvre les engagements qu'on avait pris devant les Français, que le président de la République a pris lors de l'élection présidentielle, qu'on a répété au cours des législatives, c'est qu'il faut faire quelque chose qui soit clair. C'est-à-dire qu'on s'est engagé supprimer la partie immobilière de l'ISF pour faire une chose, relancer l'investissement, avoir une fiscalité qui soit plus lisible, et faire surtout en sorte qu'on ramène du capital là où il y en a besoin. Parce que moi, ce qui m'intéresse, au-delà de toutes ces exégèses sur l'ISF et autres, c'est de voir qu'en France, dans une économie de l'innovation, dans une économie de rupture, de transformation, on a besoin de capital. Et pour l'instant, en France, on n'en a pas suffisamment, notamment pour les entreprises exportatrices, parce que par rapport à nos voisins italiens ou allemands, on manque cruellement de capital. Et tout l'objectif, toute l'ambition de notre stratégie économique, de nos politiques publiques sur ce secteur-là, c'est de faire en sorte que, un, on ait du capital pour investir dans l'économie du futur, dans les entreprises de demain, et deuxièmement aussi pour qu'il y ait des gens qui soient compétents pour rentrer dans ces entreprises-là, mettre le paquet sur la formation professionnelle. Donc,
alors Hervé Berville, on a une question pour vous, Stéphane Robert.
Pour revenir à ce que dit le MoDem, cet amendement, il va pas dans ce sens-là que vous décrivez là, et il n'est pas susceptible d'être examiné au moins.
Ah bah, il va être examiné en séance, bien évidemment, mais nous, La République En Marche et le groupe, et personnellement, je me tiendrai à ce sur quoi on s'est engagé. On a eu de nombreuses discussions. Enfin, c'est-à-dire que là, l'état actuel des choses et des discussions, c'est quand même le fruit de longues discussions avec le gouvernement, en groupe, et donc du coup, là, on est à l'aboutissement de deux mois et demi de discussions avec le gouvernement, avec les différents cabinets, et aussi avec un travail qui a été fortement et brillamment porté par la rapporteuse du texte, par le rapporteur général, et on va aller dans ce sens-là, de la clarté, c'est-à-dire qu'on s'était engagé pendant la campagne à supprimer l'ISF, en tout cas la partie immobilière, et on va le faire parce qu'on veut tenir nos engagements, on veut avancer et on veut ramener de l'investissement en France.
Et donc vous estimez que l'essentiel du travail a été fait en commission, grosso modo, et qu'il n'y a que des aménagements à la marge qui sont possibles du coup, c'est ça ?
Non, c'est-à-dire que sur cette question-là précise, on va aller au bout des choses et on va mettre en œuvre ce pour quoi on a été élu.
Est-ce que ça vous apparaît conforme à la réalité qu'il puisse être perçu, ce projet de loi de finances, comme un budget un peu déséquilibré ?
Oui, mais alors, ça fait partie des jeux politiques. Il s'agit de certains commentateurs, ou en tout cas certains opposants politiques sont atteints d'une espèce de myopie intellectuelle, c'est qu'ils ne voient que d'un côté. Quand je regarde de manière sérieuse et un peu attentionnée ce budget, qu'est-ce qu'il prévoit notamment ? La suppression de la taxe d'habitation. Enfin, ça, on peut passer comme ça rapidement, mais c'est massif et c'est important. C'est-à-dire que d'ici la fin 2020, plus de 80% des Français ne seront plus assujettis à cet impôt. Ça, c'est considérable, c'est massif. On redonne du pouvoir d'achat de manière rapide, visible pour les gens. Ça va être inscrit directement à la fin du mois et à la fin de l'année pour tous. Dans ma commune, par exemple, ou dans ma circonscription, parfois la taxe d'habitation peut aller jusqu'à 1000 euros. Donc, c'est 1000 euros de pouvoir d'achat qu'on redonne très rapidement. Donc, ça, c'est une première chose et c'est important. Ensuite, on veut récompenser, valoriser le travail. C'est toute la question de la prime d'activité, c'est la question de la suppression des cotisations chômage et maladie pour que la différence entre le brut et le net soit beaucoup plus importante pour faire en sorte que les gens soient récompensés de leur travail.
Et alors enfin, Hervé Berville, il y a une critique, Hervé Berville, qu'on entend beaucoup en ce moment. On nous a dit pendant des années, pour justifier des politiques d'efforts demandés aux classes moyennes et aux plus démunis, et puis de gestes aussi en faveur des plus aisés, qu'il fallait relancer la croissance. Aujourd'hui, on voit que la croissance est là, pour des raisons plus macroéconomiques et tendancielles. Et encore, maintenant, on nous dit qu'il faut libérer l'économie désormais et donc continuer à faire une politique de gestes en faveur de ceux qui ont de l'argent et, en tout cas, reporter des mesures favorables pour les classes moyennes en particulier.
Mais ça aurait pu être vrai ce que vous dites, mais c'est pas du tout le cas. Quand on fait la suppression de la taxe d'habitation, quand on fait l'allocation adulte à handicapé, quand on fait le minimum vieillesse, quand on fait encore une mesure qui est sociale et qui touche aux inégalités sur le dédoublement des classes en CP et ensuite en CE1, c'est pas du tout une politique pour les plus aisés, pour les plus favorisés. C'est là, on essaie de toucher au cœur même du problème, protéger les plus fragiles, et ensuite, pour les classes moyennes, c'est de leur redonner du pouvoir d'achat. Par exemple, pour quelqu'un qui sera au SMIC, ou alors quelqu'un plus de classe moyenne à 2000 euros, ça va être avec les suppressions de cotisations chômage et maladie, un gain de pouvoir d'achat conséquent, un 13e mois. Donc, je veux bien qu'on analyse simplement une partie de l'équation, mais il faut la regarder dans toute son entièreté.
Et c'est ce qui sera fait, Hervé Berville.
À mon avis, le débat politique n'en sort pas grandi si on regarde qu'une partie de la pièce. Et si on regarde bien notre budget, que ce soit sur l'éducation, sur la santé, ils sont en augmentation. Toutes ces questions-là, ces politiques publiques qui sont cruciales pour réduire les inégalités et pour faire en sorte que ceux qui sont dans une situation plus compliquée s'en sortent, on a mis le moyen et on a mis le paquet sur cette question-là.
Merci beaucoup Hervé Berville. Donc les débats seront alimentés par toutes ces questions. Débat qui commence à l'Assemblée sur le projet de loi de finances, donc à 15h avec les questions au gouvernement. On l'entend, s'il se défend encore et toujours de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, Emmanuel Macron, c'est un hasard du calendrier, se penche aujourd'hui sur le sujet de la pauvreté en France. Pauvreté des jeunes en particulier, au cœur d'une nouvelle grande concertation qui va durer 6 mois et qui est lancée en ce moment même depuis l'Élysée. En cette journée mondiale du refus de la misère, l'initiative satisfait plutôt les ONG qui œuvrent au quotidien aux côtés des Français les plus démunis. Mais chez ATD Quart Monde, Christophe Giroudet s'interroge tout de même sur le peu de préparation de cette concertation.
On a été très peu informés de la manière dont ça allait se passer. On a eu une rencontre avec le Premier ministre et le ministre du Travail et le ministre des Solidarités et de la Santé, mais la manière d'aborder cette question de la grande pauvreté, jusque-là, on n'a pas été associés sur la manière de l'aborder. Ce qui est proposé, c'est ce qu'on a compris, c'est une concertation qui devrait durer 6 mois. On serait surpris d'emblée d'avoir des mesures ou des dispositifs si dès le départ on ne réfléchit pas dans le cadre d'une concertation. Donc il y a deux choses pour nous qui sont importantes, c'est effectivement la participation des personnes en situation de pauvreté, les premiers concernés. Et puis le deuxième point, c'est que la lutte contre la grande pauvreté doit concerner tous les acteurs de la société civile pour qu'on aboutisse à quelque chose, à une politique vraiment ambitieuse et à bien faire un travail d'évaluation. Pourquoi effectivement, malgré ces lois qui ont été mises en place dans le temps, pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout de cette loi? Donc il faut comprendre pourquoi le droit n'est pas effectif jusqu'aux plus pauvres.
Christophe Giroudet, délégué national à TD Quart Monde, une ONG qui participe à la concertation sur la pauvreté chez les jeunes et qui organise cet après-midi un grand rassemblement contre la misère. Ça se passe place du Trocadéro à Paris. où l'on reparle à présent du scandale sanitaire du Levothyrox, ce médicament dont la formule avait été modifiée sans avertir les patients, et ce, alors que la nouvelle formule entraînait des effets secondaires particulièrement lourds. Depuis ce matin, le pôle santé publique du parquet de Marseille mène une perquisition dans les locaux de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, soupçonnée d'avoir elle-même demandé au laboratoire Merck de modifier la composition du Levothyrox pour rendre le produit, explique-t-elle, plus stable dans le temps. On apprenait également ce matin que pour l'heure, 365 plaintes d'utilisateurs du Levothyrox ont été déposées. Une bonne nouvelle pour toute la filière aéronautique européenne. Les termes sont ceux du ministre Bruno Le Maire qui salue l'alliance entre Airbus et son concurrent canadien Bombardier. L'avionneur européen va prendre une participation majoritaire dans un programme en particulier de Bombardier, ses avions moyen courrier C-Série, une ligne qui a bien du mal à se vendre et pour laquelle pourtant Airbus est prêt à déroger à sa stratégie habituelle du cavalier seul, Hakim Kasmi.
Et oui, effectivement, ce rapprochement négocié dans le plus grand secret, d'abord une réponse au protectionnisme américain de Donald Trump qui, pour favoriser son champion Boeing, eh bien, imposait 300% de droits de douane à Bombardier lorsqu'il vend des avions aux États-Unis, car il l'accuse de bénéficier de subventions qui lui permettent de pratiquer des prix très attractifs. Résultat, le C-Series, le dernier né de Bombardier, qui a déjà connu de gros problèmes d'industrialisation qui lui ont coûté plusieurs milliards de dollars, était très pénalisé sur le marché américain, d'autant que la compagnie américaine Delta est le premier client du C-Series avec déjà 75 appareils commandés. Pour contourner l'obstacle douanier, le groupe canadien va donc produire ses avions C-Series dans l'Alabama, à Mobile, sur le site d'Airbus. Une fois l'obstacle douanier levé, cela donnera aussi de nouvelles opportunités, puisque dans les 10 prochaines années, la flotte américaine devra être renouvelée, car c'est l'une des plus vieilles au monde. 70% d'avions neufs doivent être commandés. Mais pour Airbus aussi, ce rapprochement est stratégique. Il va lui permettre d'élargir sa gamme, notamment dans les avions moyen courrier, puisque son Airbus A319, concurrent du C-Series, jusque-là, ne se vendait plus depuis 2012. Or, le C-Series coûte un peu moins cher que le concurrent, l'Airbus A319. Un partenariat gagnant-gagnant qui permettra aussi aux deux entités de faire des synergies. Bombardier profitera de l'expérience, mais aussi du réseau commercial et de sous-traitants d'Airbus, ce qui lui permettra d'acheter des pièces moins chères, par exemple. Enfin, avec cette opération, l'avionneur européen prépare aussi l'avenir, et notamment celle de son concurrent principal, le chinois Comac, qui lui aussi, avec le C-119, deviendra un concurrent très sérieux d'Airbus dans le marché très juteux des avions moyen courrier.
Hakim Kasmi, merci à vous. On part à présent là où aucun avion ni aucune fusée ne pourront jamais nous emmener aux confins de l'univers. Nous venons d'être témoins d'un événement cosmique exceptionnel, une collision entre deux étoiles dont les astronomes ont pu observer les ondes gravitationnelles grâce aux détecteurs LIGO et Virgo basés aux États-Unis et en Italie. Alors vous n'y comprenez peut-être rien pour le moment, mais c'est un tournant scientifique comme on n'en avait pas connu depuis des décennies, et c'est ce que nous explique Rosalie Lafarge.
Le 17 août 2017 restera une grande date pour les scientifiques. C'est ce jour-là que les deux détecteurs d'ondes gravitationnelles captent un signal fort à 130 millions d'années-lumière. Les chercheurs comprennent très vite que ce signal est envoyé par deux étoiles à neutrons sur le point de fusionner. Frédéric Daigne est spécialiste de l'astrophysique des hautes énergies.
Pour la première fois, on observe un phénomène explosif dans l'univers, à la fois avec de la lumière et des ondes gravitationnelles. Et ça, c'est la nouveauté. On n'avait jamais ces deux messagers en même temps.
Et les étoiles à neutrons sont les objets les plus denses du cosmos. Une petite cuillère d'étoiles à neutrons, ça pèse autant que 100 000 tours Eiffel, parce que c'est chargé de matière. Benoît Moore est directeur de recherche au CNRS, responsable scientifique du détecteur d'ondes gravitationnelles Virgo pour la France.
Ça nous apprend à mieux connaître l'univers, puisque ce sont des phénomènes qui se passent très loin, dans d'autres galaxies, et qui vont produire de la matière qui va se répandre dans l'univers et que l'on va retrouver autour de nous. On pense que l'or, par exemple, est fabriqué lors de ces collisions. C'est pour ça que c'est un peu spectaculaire.
L'or, mais pas seulement, le plomb, le platine aussi. Les scientifiques pensent en fait avoir observé le principal processus de formation de tous les éléments chimiques plus lourds que le fer.
Rosalie Lafarge pour France Culture. Retour sur Terre avec la météo ensoleillée cet après-midi encore sur l'Hexagone. Mais des pluies font leur retour sur la pointe bretonne et elles vont s'étendre dans la soirée à la Normandie et au Pays Basque. Pour les températures, léger recul, comptez 20 degrés en région parisienne, 22 à Strasbourg et Chambéry, 24 pour Lyon et Tours, jusqu'à 27 au pied des Pyrénées. Ce journal était préparé et réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous retrouvez Aurélie Kiefer.